Radio Libertaire, Radio Libertaire, bah quelques petits réglages, vous savez, comme d'habitude, un C minor swing, l'indicatif de Chronique Hebdo. Chronique Hebdo, c'est tous les jeudis à partir de 10h jusqu'à midi. Et vous le savez peut-être, hein, puisque l'on l'avait annoncé, soit vous alliez sur l'agenda de Radio Libertaire ou soit sur le blog de Chronique Hebdo. Et donc ce matin, Fred Maurice, qui participe à l'émission Chronique Hebdo, illustrateur du blog de Chronique Hebdo et bien d'autres choses, eh bien est dans le studio de Radio Libertaire pour présenter, hein, puisqu'on l'avait annoncé, son dernier ouvrage, roman historique, Un hiver de chien, donc sur Paris 1870-1871. Cet ouvrage est sorti aux éditions de Perrault et nous parlerons, et bien évidemment, longuement de cet ouvrage tout au long de l'émission, puisque je suis ce matin avec Fred Maurice. Alors, là aussi, des petits, pour arriver au studio, c'est pas trop facile. Vous savez qu'aujourd'hui, pour, en tout cas, je vous le dis, pour ceux qui écoutent Radio Libertaire, ça soit dans les belles provinces ou dans d'autres pays, eh bien, que nous sommes pollués jusqu'au cou à Paris. Il n'y a pas qu'à Paris, hein, dans d'autres villes aussi. Et donc, ce qui fait que c'est un petit peu difficile, quelquefois, en particulier pour les bus, pour accéder au studio. Alors, on vous en parlera un petit peu de la pollution, puisque vous savez qu'il y a un ministère de l'Environnement. Et donc, sa titulaire a l'habitude de dire, hein, quand elle va à Cuba, donnez-moi la liste, hein, donnez-moi la liste, il n'y a pas de prisonniers. Et, ben, et à Paris, ou à Lyon, d'autres villes de françaises, il n'y a pas de pic de pollution, il n'y a pas de particules fines. Et donc on va en parler ce matin avec Fred Maurice. Petite revue de presse, alors pour s'installer, quelques parties musicales. Je vous rappelle, mais n'appelez pas, hein, plutôt dans les prochaines parties musicales, numéro de studio, si vous voulez poser des questions tout à l'heure, donc à Fred Maurice, eh bien le 01 43 71 89 40. Et puis en attendant, eh bien un petit peu de musique et on se retrouve. Hein, préparez vos silos, préparez vos cassettes et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, jusqu'à midi. Alors, je vous l'avais dit au début, hein, vous avez écouté, donc, ces parties musicales apportées dans le studio de Radio Libertaire par Fred Maurice. Alors, Fred Maurice, tu es là, tu m'entends,
tu m'entends
très près, et
oui.
C'est bon, les micros, je vais monter un tout petit peu, oui, c'est bien. Donc, on va rappeler quand même aux auditeurs, c'est l'émission Chronique Hebdo, et il y a un blog hein, de l'émission Chronique Hebdo. Si vous allez sur Internet, vous tapez Chronique Hebdo, et vous arrivez tout de suite, hein, c'est là, tout de suite sur le blog de Chronique Hebdo, alors que l'éducation nationale... On parle pas souvent de l'éducation nationale, vous vous doutez pourquoi. Eh bien, Madame Najah Vallaud-Belkacem, elle a une petite rubrique et elle n'arrive pas à arriver en premier.
Hein. Elle redescend même.
Elle redescend donc, et ça va continuer à redescendre. C'est pitoyable, vous vous en doutez, de voir ces pantalonnades dont on va parler. Alors, Fred, je parlais du blog de Chronique Hebdo, donc l'illustration, hein, depuis plusieurs années.
Ça doit faire pas loin de 3 ans maintenant.
3 ans,
pense,
ouais.
C'est ça. Un peu plus.
Et puis j'essaie de régler un petit peu plus fort. Alors monter l'intensité, on va voir ça pour ça. Et donc ce matin, alors on va le rappeler, tu es surtout là, on l'a dit pour l'ouvrage,
oui.
Un hiver de chien,
mm-hmm.
hein, c'est ça. Donc publié aux éditions de Perrault. Et la particularité de cet ouvrage, c'est une période, alors on parle souvent, puisque vous êtes sur Radio Libertaire, de la Commune de Paris. Hein, Commune de Paris, je vous parlais tout ce matin un petit peu aussi à travers d'un autre ouvrage, L'Utopie. L'Utopie, eh bien, l'Utopie en acte, si l'on peut dire, pour la Commune de Paris, où on s'était débarrassé de l'État. Hein, ça a duré, donc c'était possible, et ça a été, évidemment, c'est ce qu'il fallait pas faire, c'est ce que la population ne devait pas savoir, et donc occulter cette période, mais une période beaucoup plus occultée, peut-être, eh bien, c'est celle juste avant, les quelques mois avant la Commune de Paris, et ça commence à partir du mois de septembre. 1870.
Oui, on peut dire que ça commence vraiment à partir de la déclaration de guerre française à la Prusse au mois de juillet, mais le siège en lui-même commence au mois de septembre et va durer jusqu'à la fin janvier. La guerre ne sera pas terminée, mais ce sera l'armistice, hein, parce que la guerre sera terminée après la Commune au mois de juin en fait, hein, la paix définitive avec la Prusse. Mais oui, ça va durer 5 mois. Et c'est vrai que pour comprendre la Commune, il faut connaître l'histoire du siège. Et je pense qu'on comprend beaucoup des racines de la Commune à travers le siège de Paris. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal lu sur la Commune, mais quand j'avais lu différents ouvrages où le siège était abordé, je m'étais pas trop arrêté sur le siège. Ce qui m'intéressait, c'était à partir du 18 mars. Et puis, en me plongeant dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai mieux compris, ouais, que la Commune, on peut remonter à plus loin, dans les causes, dans les racines de la Commune, mais c'est vrai que le siège explique beaucoup de choses. Entre autres, la scission entre le gouvernement autoproclamé de la Troisième République, et puis le peuple parisien qui s'est senti trahi, mais bon, on aura le temps de revenir là-dessus un peu plus en détail dans la matinée. Mais voilà.
Alors, ce qui compterait, enfin, je pense, de mettre ça un petit peu en place, de situer de façon historique cette période-là jusqu'à la après la capitulation. Mmh. Et puis évidemment la Commune de Paris. Alors dire l'importance que ça a. Pourquoi ce titre Un hiver de chien, Fred?
Alors déjà parce que c'est un hiver extrêmement rigoureux. Enfin même l'automne, puisqu'en fait, alors il y a eu à Paris, ce que beaucoup ignorent, une aurore boréale le 24 octobre.
Alors qu'est-ce que c'est? Alors justement, puisque moi j'ai lu le livre et je suis alors tout de suite pour les auditeurs. Hein, c'est un gros bouquin, il y a plus de 500 pages. Et peut-être une centaine d'illustrations, dont celle de l'aurore boréale en 1870,
voilà.
Exactement.
Alors, je crois que c'est extrait de l'illustration ou du du Monde Illustré, je me souviens plus. Il y avait beaucoup de journaux à l'époque comme l'illustration. Et donc on a retrouvé ce dessin de l'aurore boréale. Et oui, donc ce soir-là, les Parisiens ont été étonnés de voir le ciel complètement rougi. Et donc comme au début du siège, certaines forêts avaient brûlé autour de Paris, beaucoup pensaient que les Prussiens étaient en train de mettre le feu à la forêt de Bondy ou ailleurs. Et les gens ignoraient ce qu'était ce phénomène. Bah, nous d'ailleurs, on n'en avait jamais vu. Voilà. Jamais. Et donc les gens sont sortis un petit peu en panique en se demandant ce qui se passait. Et puis effectivement, c'est une aurore boréale qui s'est voilà, qui a eu lieu à Paris. Donc le ciel s'est embrasé de toutes les couleurs.
Et les conditions, tu sais, donc justement, ce qu'il faut pour que ça se produise, ce phénomène météo.
Non.
C'est ça, hein, ouais, entre le.
Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que jusqu'au 24 octobre, le mois d'octobre a été très doux à Paris. Et parce que je me suis renseigné aussi sur la météo chaque jour, même sur les températures pour être le plus précis possible. Et à partir du 20. Le lendemain de l'aurore boréale, le temps s'est complètement détraqué, il a commencé à pleuvoir, et l'hiver s'est annoncé dès le mois de novembre. Il y a eu la neige a commencé à tomber, et puis après, fin novembre et décembre, ça a été assez terrible, parce qu'il y a eu des températures jusqu'à moins 18, donc les soldats qui étaient aux avant-postes, beaucoup sont morts de froid, gelés, enfin même dans Paris, des gens sont morts gelés, parce qu'il n'y a plus de chauffage non plus, et donc tout a été détraqué. Donc un hiver de chien, et puis chien parce que quelque part le personnage principal est un petit chien, puisque les Parisiens ont été affamés, même si des choses ont été mises en place, des cantines municipales, des fourneaux économiques pour que les plus pauvres aient toujours de quoi manger, mais les animaux ayant été consommés, les animaux domestiques. Donc le personnage central, c'est un petit chien qui convoite, qui est très convoité par les ventres affamés. Donc voilà. Pour le titre.
Le titre, et puis on va voir tout à l'heure, on développera alors justement que cette famine absolue a fait que les animaux, tout ce qui pouvait se trouver à Paris pour différentes raisons, puisque il y avait à la fois le jardin d'acclimatation, avec les animaux du jardin qui ont été transférés après aux zoos.
C'est ça, c'est-à-dire que... Au moment où les Prussiens sont approchés de Paris, il y a les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes.
Hein, déjà, voilà. Ça existe, faut le dire, en 1870. Voilà. Hein.
Et il y avait le zoo du Jardin d'acclimatation au bois de Boulogne.
Oui.
Et quand il a fallu faire venir des troupeaux de bœufs et de moutons, on les a parqués à la place des animaux donc du Jardin d'acclimatation. Alors certains animaux ont été vendus à l'étranger ou en province, mais certains n'ont pas eu le temps d'être de sortir de Paris. Ouais. Donc ils ont été en pension quelque part au Jardin des Plantes, et ce sont ces animaux-là qui ont été vendus aux boucheries, parce qu'il y a beaucoup de contre-informations, de mauvaises informations à ce sujet, et ce sont les animaux du Jardin d'acclimatation qui ont été vendus aux grands restaurants et aux boucheries de l'Ouest parisien essentiellement, et par contre la direction du Jardin des Plantes a précisé que leurs animaux à eux, ils ne les vendaient pas, beaucoup sont morts parce qu'ils manquaient de nourriture ou à cause du froid. Mais donc c'est vrai que dans le bouquin on a apporté la précision pour...
Ça, on en reparlera, et puis chiens aussi, parce que, bon, on voit bien, on le sait pour les chiens et les chats, les animaux dits de compagnie, et à l'époque c'était certainement un petit peu autrement, comme on dit, les greffiers et les chats avaient une autre utilité, mais là, pour chasser, parce que on préparait des civets comme on n'avait pas de lapins, eh ben, y en avait certainement, mais... il remplaçait avantageusement, si je peux dire, donc pour les préparations culinaires, les chats et les chiens, eh bien, on les attrapait et on les dépeçait, et il y avait des boucheries, à la fois boucheries canines et félines.
Félines, et puis de rats, puisqu'il y avait un marché aux rats sur la place de...
Pour les extras, hein.
Ouais. Mais je pense que les rats et les souris, les mulots, tout ça, étaient surtout consommés en pâté. Alors peut-être que d'autres en ont consommé comme ça, rôti ou autre, mais il y avait beaucoup de pâté qui était fait, et puis peut-être que bien assaisonné ça passait, mais pour les chats et les chiens, oui, je crois qu'une des premières boucheries qui a ouvert, je crois que c'est du côté de Saint-Germain, et puis après d'autres s'y sont mises puisqu'il y avait plus d'autres viandes, mais donc il y avait des chasses qui étaient organisées, il y a des gens qui ne pouvant plus nourrir leurs animaux les vendaient, donc Mais ouais, c'est vrai que il y a ce qu'on appelait à propos des chats les lapins de gouttière. Donc c'est vrai que souvent la différence entre le chat et le lapin.
Oui.
Mais j'ai dans les recherches que j'ai pu faire, je suis tombé sur un livre qui a été écrit pendant le siège, qui a été édité pendant le siège.
Oui.
Et ce sont des recettes.
Oui.
Avec les différents animaux qui ont été consommés, donc des recettes beaucoup autour de cheval qui étaient pas consommé ou très peu à l'époque, on ne mangeait pas de cheval. Des recettes à partir de l'âne, du chat, du chien, et donc quelqu'un, et j'ai plus le titre en tête du livre, mais donc c'est des recettes qui étaient données comme ça. Alors le rat était pas trop recommandé quand même, donc on pensait que c'était quand même porteur de pas mal de microbes ou autres, et mais oui un bouquin, donc chacun s'adaptait pendant le siège, donc certains ont même réussi à publier un bouquin pour recommander aux ménagères de cuisiner les animaux de telle ou telle manière. Alors après, il faut savoir que les petits animaux ont été consommés surtout par les plus pauvres, et les animaux exotiques, on va dire, hein, des jardins, ont plutôt été consommés par la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, dans les beaux restaurants, dans les grandes boucheries de l'Ouest parisien. Donc tout le monde n'a pas mangé la même viande.
Alors c'est pour ça, je dis aux auditeurs, restez à l'antenne, parce que tout à l'heure, on va lire certains menus qui sont reproduits, alléchants, hein, justement, mais on attendra peut-être un petit peu l'heure de midi, pour vous donner envie d'aller consommer ce genre de mets, ce genre de plats. Mais vous savez, alors vous savez comment ça se passe un peu pour Chronique Hebdo. C'est une émission, hein, je le rappelle, hein, pour des auditeurs qui arriveraient sur le 89.4. Je vous rappelle aussi que c'est l'ensemble de l'Île-de-France. Et puis aussi la possibilité d'écouter Radio Libertaire et toutes les émissions sur Internet. Eh bien, une émission de commentaires de l'actualité, mais pas seulement. Et surtout, je dirais pas que, hein, parce que tu sais, les blagues, on repérait avec, tout à l'heure on parlait de ça avec Fred Maurice, un petit peu le rétrécissement du vocabulaire dans l'ensemble des médias, parce que j'en ai déjà parlé aux auditeurs. Tu es abonné à la revue Acrimed, hein, c'est l'analyse critique des médias. C'était le 20 ans à peu près que ça, hein, c'est le 20e année. Et donc, dessus, là, ce que l'on peut dire, comme on parle des chiens de garde, vous le savez, de plus en plus, mais le rétrécissement, alors le rétrécissement qui touche peut-être toute la population française, on va le voir après pourquoi, hein, comme je dis, les nourritures, les mauvaises nourritures industrielles et les nourritures libérales, faussement libérales, et les nourritures capitalistes, et donc on reviendra sur ce rétrécissement du langage, l'appauvrissement du vocabulaire, et en particulier tous ces tics de langage sur l'ensemble des médias. Alors il y en a un en particulier, vous pouvez vous amuser à ça, hein, si vous n'êtes pas intoxiqué, si vous avez encore un peu de résistance, si vous l'avez pas éteint, toute la propagande de la télévision et de l'ensemble des radios. Mais vous le savez bien, selon la formule, il faut essayer de connaître le mieux possible ses ennemis pour pouvoir les combattre. Parce que c'est vrai que quelquefois, c'est bien plus simple de ne pas écouter, de ne pas entendre et de ne pas voir. Sauf que on est pris, comme on dit, selon la formule, otage du capitalisme, est pris dans la nasse à notre tour, et que pour en sortir, pour essayer tout du moins d'en sortir, ou pour essayer de combattre nos ennemis, il faut bien les connaître. Alors l'éthique de langage, il y a le paque qui apparaît en ce moment, il y a des paque. Alors là aussi, qui est en tête de gondole pour le vocabulaire, compliqué. Et actuellement, c'est vrai que partout, c'est compliqué. Les transports sont compliqués. Les primaires, c'est compliqué. La météo, les transports, je l'ai dit, c'est compliqué. Et alors, il sort souvent, ces expressions du coup. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de faire peut prendre des voitures ce matin, je vous le dis, pour l'ensemble de la région parisienne, et puis d'autres villes, hein, comme Lyon. C'est le La circulation, on ne sait pas ce que ça veut dire, alterner. Alors, numéro pair, impair et passe, pair perdu. Donc, ce matin, dans les rues de la capitale, il y avait quelques difficultés, justement, parce que les flics étaient en train de contrôler les pairs et impairs. Et vous savez que selon la formule, ça doit pas être facile pour eux de pouvoir distinguer des chiffres pairs ou impairs, hein, on s'en doute. Et donc, ils mettent beaucoup de temps, et il y a beaucoup de voitures, je voyais ça, justement, devant la gare d'Austerlitz, c'était arrêté, qui était contrôlé, qui était aussi sanctionné, hein, puisque c'était des impairs qui ne passaient pas, et ça ralentissait, évidemment, circulation, on peut pas employer cette expression, parce que ça circule pas, mais ça entravait les transports, en particulier de bus qui sont, hein, Fred Maurice, on l'a évoqué ce matin, gratuits. T'as été étonné puisque tu es arrivé mardi.
Mardi, ouais.
Alors mardi, étonnement, puisque l'ancien...
Pas besoin de frauder.
Non, c'est ça. C'est partout pour les trains et pas pour les trains de la région parisienne, hein, voilà. Alors, la difficulté aussi, quand des gens viennent de l'extérieur, d'autres pays, c'est de voir toute l'arsenal de tourniquets, de portes presque blindées pour accéder dans les quais. Les gens pensent qu'on ne peut pas y accéder autrement. Il faut pousser, c'est le moment de le dire. Et donc, là aussi, tout ça était en train de se transformer. Puis la gratuité pour les bus, hein, donc et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, alors que on le réclame. Et puis là, évidemment, la gratuité pour l'ensemble des transports parisiens. Alors, je te disais compliqué, l'observation que l'on peut faire, enfin, entre autres, cette semaine, sur le plan, on va pas dire politique, parce que ça n'existe pas, ce sont que des affairistes, des politiciens de métier, des politiciens corrompus, hein, corrompus, la corruption est partout, vont rattraper certains candidats à la candidature qui ont été virés. Et c'est vrai qu'on a eu droit depuis une semaine à une sorte de télé-réalité, hein, tu vois, un petit peu le maillon faible, et à la fois quelque chose de catastrophique. Alors, évidemment, pour les anarchistes, on peut dire que le spectacle affligeant que les gens peuvent avoir devant les yeux, on pourrait penser qu'ils vont peut-être un jour comprendre ce qui se passe, et que je parlerai pas du déshonneur, mais le déshonneur de l'électeur, on vous l'a dit souvent dans cette émission, l'électeur est un criminel, eh bien la connerie de l'électorat est de plus en plus manifeste, parce que avec, s'agit pas d'aller une fois de temps en temps donc aux urnes, mais là ça serait presque de façon hebdomadaire, ça va être peut-être quotidienne, on va dire. On s'emmerde là, il n'y a pas de votation. Alors vous avez vu évidemment l'ensemble des péripéties, on en a parlé, de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la trompette, ce qui s'est passé aussi en Autriche, hein. Là aussi les gens se font des illusions, puisque c'est un ver, alors je dirais le ver dans le fruit, c'est un ver capitaliste, un ver libéral, et il est peut-être pire que celui qui a été jeté. Alors les constats, voilà Fred, hein, c'était un peu ça, de voir, de balayer, ça serait un bon coup de balai sur tout ça, sur cette actualité, mais qui malheureusement peut être porter des conséquences fatales à l'ensemble de la population. On le verra tout à l'heure, puisqu'on va en reparler de livres, les périodes que l'on peut vivre, donc les années celles-là, 1870 et puis la 71, avec une tentative justement avec la Commune de Paris, et ce que l'on peut vivre justement en 2016, en tout cas en ce moment. Et donc toi, tu es arrivé à Paris et tu as découvert certainement en plein hiver de chiens aussi, mais d'autres conditions, puisqu'on pourrait un petit peu en parler, cette histoire de pollution qui est quand même quelque chose de terrifiant.
Et on n'est qu'en hiver.
Hein, voilà.
On n'est qu'en hiver.
Ah oui. oui, c'est pour ça.
Ouais.
Alors là aussi, et ce qu'on parlait, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, puisque la circulation dite alternée, on n'observe pas une
diminution. Visuellement, on voit pas de différence.
Non, on voit pas de différence, déjà.
D'un point de vue sonore, c'est pareil, c'est aussi bruyant.
Ah ouais, c'est aussi bruyant.
On voit pas vraiment de différence.
Et puis les relevés, apparemment, d'Air Paris, font que la pollution est au même niveau. Oui. Pourquoi? Parce que l'incidence, bien sûr, il y a les voitures, mais il y a tous les chauffages. Mm-hmm. Chauffage, évidemment, des particuliers, l'industrie, hein, et puis aussi les nappes de gaz, qui circulent un peu sur l'ensemble de la France, hein, qui viennent peut-être du Nord. Donc tout ça n'est pas modifié, mais c'est une première, ils ont osé, parce que souvenons-nous que fait la police, opposant à Madame Pécresse, c'est pas pour rien pour dire à Madame Pécresse, et à Madame Hidalgo, qui était favorable à la circulation alternée, Madame Royal, je ne sais pas, on en reparlera. Et en tout cas, eh bien, c'est une première qu'ils l'ont autorisé. Alors, encouragé et on peut dire imposé, donc ça marche pas trop, et que l'on a grâce à ça ou à cause de ça la gratuité des transports. Alors profitez-en, hein. Profitez-en. Mais Fred, sur l'histoire, on pourrait aborder plus sérieusement l'histoire de la pollution, parce que le nombre de victimes est impressionnant. Ouais, hein, et là aussi, c'est Madame Royal dirait, montrez-moi les listes.
Je pense qu'elle n'aura pas de liste, donc il n'y aura sans doute pas de victimes
de
la pollution.
Il n'y aura pas de victimes de la pollution, et c'est quelque chose évidemment de très important, et qui fait que on parlera tout à l'heure pour le livre où à la fois la bourgeoisie, les pauvres, pour le siège de Paris, tout le monde y avait droit, et en particulier à un moment il y a une séquence dans le livre où on parle si certains pouvaient mieux manger, pour les bombardements, pauvres ou riches, ils pouvaient être traités au même point.
Oui, bien que beaucoup de riches étaient partis dès le 4 septembre, parce que les républicains bourgeois qui ont pris qui sont autoproclamés au gouvernement, pour eux c'était déjà un début de révolution, donc beaucoup sont partis là, et d'autres sont partis après quand les Prussiens se sont approchés. Mais ceux qui sont restés, oui, ont reçu tous les quartiers sud, de toute façon, ont reçu autant à l'ouest ou à l'est, quoi. Donc,
la même chose, un petit peu la même chose actuellement, puisque on pourrait dire que la bourgeoisie et la bourgeaille, ou les pauvres, eh bien, respirent le même air pourri. Alors, tu sais, il y a un film qui s'appelle Marcel Carnet, L'air de Paris, avec Arletty et Jean Gabin. Et là, c'est l'air de pourri, donc, que l'on respire tous, hein, mais dans les mêmes conditions, que ce soit les enfants. Et apparemment, là, encore une fois, eh bien, c'est la fatalité. Les gens sont, par rapport à ça, puisqu'ils font des annonces, je voyais ce matin, à la SNCF, ils disaient, si vous voyez quelque chose de particulier pour votre sécurité. Et moi, j'ai dit, bah oui, je vois des particules. Mais apparemment, les gens n'ont pas réagi. En disant, c'est encore un fou qui a craqué. Essayez, je vous l'ai déjà dit, de vous exprimer dans les transports. Vous verrez un petit peu la réaction, évidemment, des gens, ce qu'ils peuvent subir dans ces transports. Alors, là, par rapport, juste peut-être, tu pensais à ça, tu dis pour la bourgeoisie, ils avaient fui, ce qui fait qu'il y a un paysan dans le livre qui arrive à Paris et qui trouve une maison et un jardin où il va pouvoir mettre ses animaux, non?
Ouais, il y avait ce qu'on appelait les paysans en chambre, et parce que donc, certains riches, pas mal de familles riches ont quitté Paris donc au moment du quand la Troisième République est déclarée, et avant que les Prussiens encerclent Paris, et donc ça libérait des appartements. Donc il y a eu un mouvement de fuite de Paris, et de l'autre côté, la banlieue qui à l'époque est uniquement la campagne, hein, puisque à part peut-être Saint-Denis ou quelques villes qui étaient déjà des villes plus ou moins importantes, les villes actuelles n'étaient que des villages. Donc la banlieue de Paris c'était vraiment la campagne, et donc les paysans qui étaient autour de Paris sont venus se réfugier à l'intérieur de l'enceinte, puisqu'il y avait les remparts, les fortifications à l'époque, à la place de l'actuel périphérique, hein, on peut revenir sur la pollution. Mais donc ouais, beaucoup de logements ont été libérés par les plus riches, donc pour loger les paysans, les banlieusards, on les a mis dans certains beaux appartements, et certains venaient avec leurs animaux. Donc on a retrouvé. Oui. Alors il fallait les déclarer, parce qu'à un moment tous les animaux devaient être sacrifiés, quoi, pour parer à la famine, mais certains ont réussi à cacher quelques animaux. On avait retrouvé une vache et un veau à un quatrième étage dans un immeuble. Donc ouais, oui, il y avait un mouvement de fuite et voilà, il y a eu la fuite et puis ceux qui sont venus dans l'autre sens se réfugier. Donc ça a équilibré puisque la population est à peu près la même entre ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés. Oui.
Alors, Fred, ce que l'on va faire, on va peut-être un petit peu continuer, mais bon, pour les auditeurs, on l'a annoncé, hein, pendant les parties musicales, vous pourrez nous appeler, un petit peu de commentaires de l'actualité, quelques minutes encore, ça va être difficile pour vous, je sais bien, mais vous êtes habitués, et puis après, bien évidemment, on va, puisqu'on a commencé, hein, parler beaucoup de l'ouvrage, hein, je vous le rappelle, Un hiver de chien, Fred Maurice aux éditions de Perrault, revenir sur cette période et voir toute l'originalité, je pense, hein, par rapport à l'ouvrage, de cette période, de la période, comme on dit, Ferry Famine, hein, faut pas l'oublier, Jules Ferry et tous les Jules. Vous rappelez ça, et rappelez ça peut-être aux enfants de l'école de la République, cette période absolument occulté. Alors, je te disais, pour quelques informations, la remise en cause de la votation. La remise en cause de la votation, alors on le voit à la fois dans des journaux ou des magazines tels que Télérama, hein, un petit peu regardé, trempé dans l'eau bénite, parce que c'est quand même à la mode, hein, ces tendances pour Fillon. Et donc, là aussi pour Télérama, et apparemment un article où il dénonçait la votation en disant évidemment l'inutilité de la votation, que ça ne servait plus à rien et que il fallait trouver peut-être d'autres façons, mais pas encore de changer, hein, de modèle, évidemment, non, ils sont pas encore là, ou d'avoir une utopie, comme je disais tout à l'heure au début de cette émission, ou de penser à des propositions d'organisation économique et sociale anarchiste, mais simplement la vieille antienne, tu sais, du tirage au sort. Hein, ça aussi, donc on va tirer quelques personnes au sort, et ils feront pas plus pire, mais on s'en doute, que, évidemment, ceux qui auront été désignés par le suffrage dit universel. Alors c'est vrai que là aussi dans le monde, hein, dans le monde, je t'avais lu tout à l'heure, il y avait des petites remarques sur l'air du temps, ça s'appelle, c'est une rubrique. La guillotine, il parle de la guillotine ou de la veuve par rapport à ce qui est arrivé à certains candidats éliminés. Comme celui qui occupe la présidence dite de la République. Alors là, comme on excuse, c'était dans Le Monde, hein, on va citer quand même, certains comme Albert Cosseri l'appelaient l'immonde, mardi 6 décembre, hein, c'est récent, 2016, comme on excuse Hollande d'avoir fui la veuve, alors la veuve c'est la guillotine, en renonçant à se représenter à la présidentielle, et alors quelques critiques donc sur la votation. On voit ça quand même dans ce journal de la bourgeoisie, hein, de Quotidien Vespéral des Marchés. Si je vote truc, écoute bien, ils osent dire ça, machin passe, et se trouve face à bidule au second tour. Mais comment ils causent, hein, dans le monde? Le fait est que ça ne marche pas toujours, et même que ça foire souvent. Oh là là, les expressions. Élucubration, piège à con. Comme diraient les Suisses, après Brassens, la votation, papa, ça ne se commande pas. Hein, tu vois, écrit. Et alors, là aussi, dans les primaires, apparemment, il y a un mec qui a été voir ce qui se passait à l'intérieur, qui est rentré. Un vieux monsieur était alors rentré dans un bureau de vote qui en était un peu revenu de tout ça, de toutes ces billes pesées, dit-il. Et il s'exclame, alors, c'est ici qu'on doit choisir entre la grande et la petite vérole. Voilà comment s'exprime le mondain. Alors, je dis donc, il y a un espoir, hein, pour les non-électeurs que nous sommes. Et donc, de voir que, alors, en dehors de ça, vous vous en doutez bien, ben, tout l'appareil de propagande, hein, que ce soit radio, télévision, comme jamais, puisque les journaleux, évidemment, ils touchent du pognon, enfin, ils participent de l'ensemble de ce système. Et là aussi, donc, c'est primaire. C'est très primaire, hein. Tu sais, avant on disait ben, donc c'est de l'anticommunisme primaire. Et donc là ils reconnaissent eux-mêmes puisqu'ils en organisent des primaires. Alors là on a vu donc la dernière, hein, vous avez vu, c'est pitoyable le résultat. Et alors ce qu'on rigolait évidemment sur ce festival de voyance dans les médias,
ah, ils sont très forts,
où
ils sont...
tous les politologues, les experts avaient tous annoncé donc la victoire, hein, du Juppé. Hein, alors là aussi très fort, tous plantés. Et Fred, tu me parlais en particulier d'un qui rehausse le niveau.
Éric Brunet, qui est Éric Brunet. Une sommité de RMC, c'est cette superbe radio.
Ouais.
Et ben, lui, que ça peut préplanter surtout depuis pas mal d'années. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils le font toujours avec un aplomb, quoi. Je veux dire, ils ont une telle science de la politique que c'est impossible qu'ils se trompent. Donc ils annoncent les choses. Et puis comme on oublie vite les âneries qu'ils peuvent dire. Donc, donc effectivement, il y a des journaux comme Le Canard ou Médias Critiques qui vont ressortir
pour
un petit peu régénérer la mémoire. Mais sinon, on oublie vite. Donc, ils peuvent se permettre de dire absolument ce qu'ils veulent.
Le contraire, absolument. Une semaine après, dire qu'ils avaient tout prévu. Alors, leur montrer, non, c'était pas ça. Alors, ce festival, quand même, je pense, de la voyance, parce qu'en dehors de ça, c'est vrai qu'il touche des milliers d'euros.
Ouais.
Parce que c'est là, les têtes de gondole. Alors, on parle d'un mec... Yves de Kerdrel, parce que les aristos sont là pour Valeurs Actuelles, hein, et lui, il avait écrit dans quelques heures, le Hollandais va annoncer qu'il va briguer un second mandat. Donc là, on voit bien. L'Obs aussi, l'obsolète, comme on l'appelle ici, l'observateur, enfin ce qu'il en reste, là aussi, c'était Manuel Valls est rentré dans le rang, aux yeux du président, la plupart des conditions sont désormais remplies pour que Hollande se représente.
Bien vu.
Hein, c'était exactement pile poil. Alors Jean-Michel Apathy, on en parlait, meilleur des meilleurs. Lui, il est partout, il est même sur France des Infos.
Ah, il fait toutes les chaînes, tous les ans, échange, voilà. Les transferts.
Ouais. Alors il avait fait un bouquin, on prend presque les mêmes et on recommence, chez Flammarion, des gens achètent ça. Et de citer parmi les éternels repris, il n'a pas dit de justice, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Tout bon. Hein, donc là,
le tiercé dans l'ordre.
C'est merveilleux. Alors ça a été comme ça, bon, pour Fillon, alors lui, là aussi, dans le bouquin de Hollandais, hein, deux pages sur 180, où apparemment, non, c'est un autre bouquin qui avait été annoncé aussi par un brillantissime voyou, le voilà engagé dans une course dont il n'est pas certain qu'elle lui corresponde, est-il profilé pour être président de la République? Il dit non, et... Pan patatrac, c'est lui qui est retenu. Hein, c'est lui qui est retenu pour le maillon faible. Et alors, un qui a été oublié, mais pas par nous, qui a été oublié par le Canard enchaîné, hein, pas par nous, et vous pouvez à ce sujet aller voir sur le blog de notre ami Floréal, hein, vous faites le blog Floréal sur Internet, hein, donc croire, c'est ça, ou penser, il faut choisir. Et là, c'est le Onfray. Monsieur Onfray. Alors, Monsieur Onfray, voilà ce qu'il dit. Quelques jours, justement, avant la défection du Hollandais, mieux, nous dit Floréal, qu'Elisabeth Tessier, hein, mais bien sûr qu'il va se représenter. Voilà. Alors comme d'habitude, ben voilà, celui que on l'appelle Onfray mieux de la bouclée, hein, souvent. Donc est évidemment quelqu'un de costaud, de balèze. Donc pour le moment, mais c'est encore une fois un désastre, hein, parce que en plus de ça, ils entorchent médiatiquement. On voit, on l'a dit déjà sur cette antenne, les quatre chaînes enchaînées en continue, hein, puisque le France des Infos a été fait un peu pour ça, pour la promotion du Hollandais.
Oui.
C'est déjà un échec absolu, puisque ça marche pas.
Je trouve qu'il y a toute une mise en scène. Ils arrivent à dramatiser la chose quand il y en a un qui est éliminé.
Ouais.
Et
Oui, c'est là exactement de ce jeu de voir et d'entretenir. Alors
c'est le spectacle, hein,
oui,
c'est,
alors on avait dit les sept salopards, les sept mercenaires dans le sens réel, hein, c'est-à-dire faire pour du pognon. Donc c'est évidemment un Cubelli, hein, qui s'en est sorti le mieux, et puis amateur de Formule 1, hein,
oui,
voilà.
Oui, oui.
Et puis peut-être sur le plan personnel opposé à l'avortement, hein, c'est balèze ça
oui,
aussi.
Oui.
Donc on peut penser aussi, j'avais envie de dire, on ne sait pas pour la marine, en tout cas pour le Front National, si le casting, alors évidemment on va se planter comme les autres, deuxième tour qu'on pourrait annoncer, Fillon, la marine, si voter la marine, ça serait pas voter à gauche ou à l'extrême gauche par rapport à Fillon. Voilà pour les électeurs. Alors donc, aussi la responsabilité qu'ils peuvent porter, parce ouais. qu'on en prend, évidemment, on s'en prend à tous ces personnages de plus infects, infâmes les uns que les autres, mais ceux qui les portent, hein, c'est ce qu'avait dit Libertad, l'électeur est un criminel, ou encore une fois, qui porte la responsabilité de les faire, de les élire, de mettre un bulletin, et... Tu sais que je le ressors de temps en temps, je vais pas me gêner. Le palindrome est lu par cette crapule. Eh ben, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a le candidat et celui qui va aller voter est lu par cette crapule. Je trouve que c'est complètement d'actualité. Alors. Pas vraiment, puisqu'on va attendre le mois de janvier, hein, vous savez, où il y a une douzaine. Là, c'est dingue, ça n'arrête pas. Le Payon.
L'autre primaire de droite.
La primaire, voilà, exactement. Il faut pas se tromper, puisque vous êtes sur Radio Libertaire, on vous le dit, ça n'existe pas, la gauche. Hein, c'est une totale fiction. Alors. C'est une fiction et aussi beaucoup plus grave, l'observation qu'on pourrait faire, c'est que, donc, selon la formule, méfiez-vous de mes amis, hein, mes ennemis, je m'en charge, et nos amis, quand ils se présentent tous de gauche, hein, voilà, alors les gens peuvent entendre, bah oui, sur le plan social, sur le plan économique, ils vont améliorer un peu la situation. On voit, alors vous avez vu le résultat tragique, hein, puisqu'on certains ont parlé de valse tragique à Matignon, et ça continue parce que y a pas qu'un, ils sont tous plus en dessous les uns que les autres. Et dernièrement, alors là aussi, je pense qu'il fallait un petit peu en parler, c'est le voyage de Madame Royale à Cuba. Alors, Madame Royale à Cuba, alors évidemment, ça a été quelque chose de ça a fait un tollé à l'Assemblée nationale hier, hein. C'était un nouveau gouvernement, il paraît. Alors, un nouveau gouvernement avec des flics, hein, puisque c'est que des flics en France, Premier ministre. Faut passer par la place Beauvau. C'est vrai que ça va bien aux Français, hein. Parce que on rappelle souvent sur cette antenne 240 000, hein, gendarmes et flics, hein, c'est la même chose. Là aussi, la sécurité, on l'a connue, on sait ce que ça veut dire. Et là, encore une fois, le passage obligatoire, quasiment obligatoire, par la place Beauvau. Alors, place Beauvau, alors quand on a vu le casting, évidemment, ils reprennent les mêmes, hein, et on recommence. Donc, il y a quelques petits changements. Mais certains pensaient que la ministre... alors, ils appellent ça de l'écologie. Enfin, là aussi, évidemment, tout est mensonger. Hein, vous vous en doutez bien. Le voyage à Cuba. Et alors, le tollé, elle a dit, c'est de la polémique. Ici, quand on me demande des listes de prisonniers politiques, on n'en a pas. Fournissez-moi des listes de prisonniers, on pourra faire quelque chose. Alors, là, voilà, Fred, hein, je disais. Alors, effrayant, puisque Amnesty International, tout le monde a fait monter au créneau, rien que pour le mois d'octobre, il y a eu 620 arrestations, hein, il disait. Et évidemment, Amnesty International est interdite à ouais. Cuba. Alors, elle a évacué ça, parce que c'est le couple hollandais, moi je les appelle un peu, on pourrait dire, les Thénardier, hein, ou les Hollandescu, je sais pas comment ils finiront, hein, comme en Roumanie, Royal et Hollande, et pour preuve, c'est que le Hollandais, il avait fait la même chose dans son son voyage à Cuba en mai 2015 où il avait dit à peu près la même chose. Hein. Donc ils sont en famille, en couple en tout cas, pour être d'accord, pour dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques connus, identifiés, qui justifient un dossier. C'est extraordinaire parce que, évidemment, vous le savez bien, le politicien, c'est un menteur, hein, puisque j'appelle pas pour rien Madame Royal Menteuse, hein, comme vous savez, pour les cigarettes, il y avait Royal Menteur, Menthol, et donc pour les plus anciens. Et donc là, c'est le mensonge en continu, mais grave aussi la gravitude. La gravitude, c'est qu'à la fois, le chef de l'État, quand il avait été, il l'appelle comme ça, hein, le Hollandais, il tenait ses informations pour dire qu'il n'y avait pas de prisonniers, le Hollandais, du cardinal cubain, Jaime Ortega. Hein, tu vois. Et elle a remis la mise en disant, mais vous savez, à l'Assemblée hier, le pape François, il a été à Cuba et il a rencontré Fidel Castro. C'est preuve que ces gens-là, la liberté de conscience et la liberté de religieuse existent.
C'est QFD.
Voilà. Alors gravitude, puisque c'est quand même la ministre de l'écologie, comme on dit, de l'environnement, ce qui est un titre absolument con, parce que environné, on est environné de rien, on est à l'intérieur. En particulier à Paris aujourd'hui, on est en plein dedans, hein, comme on dit, on est en plein dedans. Alors voilà, là aussi au-delà, bon, de plaisanter, mais pour Castro, bah ils y sont allés, hein, puisque Chassaigne, je vous le dis souvent, faut que Chassaigne, hein, qui est député aussi, lui aussi, qui a une place, qui ne sait pas s'il va être nommé, aux questions d'actualité, au gouvernement hier, il a dit, moi je soutiens, je défends Madame Royal, ses positions de Madame Royal. Et on a vu là aussi, les gens le déchirent pas, ils l'envoient pas, font pas grand chose avec. Ce qu'on peut voir sur certains, dans les gares, hein, dans les maisons de la presse, L'Humanité dimanche, c'était le dernier titre. Les peuples remercient Castro. Tu vois, voilà, c'est quand même extraordinaire. Hein. Alors certains nous posent la question, vous aimez pas le Parti communiste français? Ils se doutent, on l'aime pas, c'est lui qui nous aime pas, puisque au moment de Fidel Castro, quand il a pris évidemment plus que le pouvoir avec la manière que ça s'est fait avec Che Guevara. À ce sujet, allez voir encore une fois le blog de Floréal qui renvoie au blog de Claude Guillot. Vous verrez un petit ouvrage qui est en accès libre, hein. Vous pouvez l'imprimer et qui fait le point à la période où Castro et sa clique a pris le pouvoir et les centaines et les centaines d'arrestations, de procès plus que staliniens et d'exécutions auxquelles ont participé en particulier Che Guevara. Mmh. Des centaines. Et là, à cette époque-là, il n'était pas bon d'être anarchiste. Hein. Donc, il faut pas oublier ceux, évidemment, Fred, on va avoir ça entre l'histoire officielle, évidemment, l'histoire écrite par les salopards et écrite par les vainqueurs, avec l'histoire autrement, qui est écrite autrement et que je vous encourage à savoir ce qui s'était passé réellement à Cuba et ce qui continue à se passer, et en particulier pour des militants, et en particulier pour des opposants politiques comme il y a en France, de rappeler qu'il n'y a personne d'arrêté. Aucun opposant qui se trouve actuellement à Cuba, c'est crapuleux, c'est ordurier, c'est indécent. Et donc, là, ce que peut dire que tous ces ministres, évidemment, je ne sais pas, on en parlera, méritent, comme a dit un journaliste du Monde, méritent la gueuse. Hein, pourquoi pas, hein, là encore. Alors, on va pas le dire, puisque nous sommes des pacifistes, mais c'est simplement sous un plan symbolique, puisque vous le savez, comme disait Madame Royal, la liste pour nous aussi de ceux qui pourraient passer sur les pics des révolutionnaires, et ben cette liste là elle n'existe pas, oui. Hein, voilà. Donc voilà Fred, et ben en tout cas tout de suite quelques petites parties musicales et puis un hiver de chien. Je vous le rappelle, Fred Maurice dans le studio, les éditions de Perrault. Et on aborde, hein, cette question, comme on l'a dit au début de l'émission, ce sujet, ce thème, juste avant la Commune de Paris, complètement occulté. Et là encore, on est, vous le savez, dans l'histoire officielle et on va essayer de voir comment raconter cette période qui a été totalement planqué, caché, et il est bon de le rappeler, la Commune de Paris, ça durait longtemps dans les livres d'histoire, bien au-delà de la guerre, même la première guerre dite mondiale, hein, interdiction d'évoquer la Commune de Paris dans les livres d'histoire pour les petits-enfants de l'école des Jules, de l'école de la République. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire. Numéro du studio 01 43 71 89 40.
J'entends les fous parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance, sous le nombril j'ai descendu mon cœur. Libre manant de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Mon moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Vive la paix, la France est aux enchères. Demain, bourgeois, vous pourrez recoiffer. Bismarck attend au château de Ferrières. Que dans Paris, tiers lui disent d'entrer. Favre griffonne, un dernier protocole. Trochu renonce à son plein compris. Allons, Brébant, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. Allons, Brébant, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine? Dans ces pays, je n'ai ni champ ni bien. Que le Prussien nous les laisse sous les prennes. Je m'en bats l'œil, car je n'y perdrai rien. Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse. Metz ne vaut pas une aile de perdrix. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Allons, c'est dit, bonbonne, fais toilette. Au salon bleu, remets les rideaux neufs. Et toi, Manon, va battre l'omelette. Grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs. Je veux demain recevoir à ma table trois Bavarois et je veux qu'on soit gris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un beefsteak, on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un beefsteak, on a rendu Paris. Pour un beefsteak, on a rendu Paris.